Radio Kapi.
Blaise Shindani Kambala pour le journal.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la RDC continue de progresser à un rythme inquiétant. Lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Genève, le directeur général de l'OMS a averti que si cette tendance se poursuit, l'épidémie pourrait dépasser l'ampleur de celle qui avait frappé l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. La coalition Article 64 maintient la pression. L'un des cadres de cette plateforme politique, Dieudonné Boleng Ntenge, a donné jusqu'au 15 août aux autorités pour clarifier la convocation du dialogue national inclusif. Passé ce délai, des manifestations citoyennes seront relancées à travers le pays, a-t-il annoncé mercredi à Kinshasa. La RDC relance la réforme de ses entreprises publiques. Le gouvernement souminois met fin à la logique des quotas politiques et veut désormais miser sur le mérite, la compétence et la transparence dans la nomination des dirigeants. Cette question a été au cœur de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier, mercredi. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous ouvrons ce journal par l'épidémie d'Ebola qui frappe l'est de la République démocratique du Congo et qui progresse plus vite que toutes celles qui l'ont précédée selon l'Organisation mondiale de la santé. Avec près de 4500 cas confirmés et plus de 2000 morts, l'OMS redoute désormais qu'elle ne dépasse, si son rythme actuel se maintient, la catastrophe qui avait ravagé l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé l'a indiqué lors d'une conférence de presse tenue hier mercredi à Genève. Reportage Blaise Ndongala Mayanda.
La course contre les virus a commencé avec plusieurs longueurs de retard et l'épidémie a pris une avance considérable car elle est toujours loin devant nous et nous essayons de la rattraper, a reconnu les patrons de l'Organisation mondiale de la santé. Selon encore lui, les constats tranchent avec les progrès accomplis depuis la déclaration officielle de l'épidémie le 15 mai dernier. En moins de 3 mois, le virus Bundibugyo, cette souche d'Ebola particulièrement létale, s'est propagée dans 5 provinces et 5 zones de santé. L'Ituri concentre à elle seule environ 90% des cas et 80% des décès, avec une transmission persistante, notamment dans la capitale provinciale Bunia, ainsi qu'à Ruampara et Nizi. D'après les estimations de l'OMS, l'épidémie aurait commencé dès à 3 mois avant sa reconnaissance officielle, sans qu'il soit encore possible d'en dater précisément les débuts. Une enquête épidémiologique et génétique se poursuit pour reconstituer ces premières chaînes de transmission. C'est désormais cette partie immigrée de l'épidémie qui inquiète le plus les autorités sanitaires, note l'OMS. C'est pourquoi l'organisation conclut que la bataille se jouera moins dans les seuls centres de traitement, mais surtout au cœur des communautés.
Santé encore, l'hôpital général de référence d'Oicha, doté d'une ambulance médicalisée depuis hier mercredi. Un don du gouvernement congolais à travers le Fonds national de réparation des victimes. Cette dotation très attendue dans la zone de santé d'Oicha vise à renforcer la prise en charge médicale et l'évacuation des patients de cette partie du territoire de Beni dans le Nord Kivu. Pour les responsables de l'établissement, ce véhicule sanitaire va contribuer à améliorer l'accès aux soins, notamment dans les cas d'urgence nécessitant un transfert vers des structures spécialisées. Docteur Isaïe Kassiré Kanzala, médecin directeur de l'hôpital général de référence d'Oicha, s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Le gouvernement nous avait donné une ambulance, ça fait plus de 10 ans. Et cette ancienne ambulance est maintenant hors usage. Et maintenant que nous recevons l'ambulance aujourd'hui, vraiment, ça fait une grande joie. À notre niveau, nous disons que cette ambulance va vraiment nous aider à sauver des vies. Parce que vous savez, dans notre domaine de la santé, une minute gagnée, c'est une vie gagnée. Une minute gagnée, c'est une vie qui est sauvée. Donc voilà. Cette ambulance va desservir beaucoup de monde. Une zone de santé qui compte actuellement une démographie de plus de 354 000 personnes qui sont dans la zone de santé. Malheureusement, une zone de santé également secouée par les ADF NAL qui ne cessent d'opérer et ils créent toujours des victimes, des crimes, des violences sexuelles liées au conflit. Et donc, avec cette ambulance, elle va nous permettre d'expédier le plus rapidement possible tous ces victimes-là vers les soins appropriés.
Signalons qu'un important lot de matériel et d'équipements médicaux a également été offert à cette structure sanitaire par la même occasion, dans le but d'améliorer la qualité des soins offerts aux femmes enceintes et aux enfants nouveau-nés. Politique à présent, la coalition Article 64 ne cède pas et fixe son ultimatum du 15 août pour obtenir des précisions sur la convocation du dialogue national inclusif. Dieudonné Bolenguentengue, l'un des cadres de ce regroupement politique, a fait cette mise au point hier mercredi à Kinshasa lors d'une conférence de presse. Cet acteur politique précise qu'au-delà de cette date butoir, les manifestations citoyennes seront relancées à travers le pays. Dieudonné Bolenguentengue, au micro de Radio Okapi.
Nous avons maintenu la date du 15 août comme étant la date butoir au terme d'une période pour que nous soyons à mesure de revenir vers l'opinion et annoncer la suite de nos actions. La C64 tient et ce qui se dit à son sujet en rapport avec la date butoir du 15, mais aussi et surtout en rapport avec la contradiction qui aurait entre son objectif affiché de défense de l'ordre constitutionnel et le fait qu'on ait cédé à l'idée de nous engager ou d'apporter une forme de collaboration par la trêve à une bonne préparation du dialogue, cela, c'est pas des situations incompatibles. Nous observons une trêve jusqu'au 15 août. Si d'ici au 15 août, il n'y a pas d'avancée significative dans la voie qui conduit à l'organisation d'un dialogue, nous allons en tirer toutes les conséquences politiques et relancer nos manifestations citoyennes.
Par ailleurs, la coalition C64 s'oppose à toute tentative de révision ou de changement de la Constitution, empêchant ainsi toute manœuvre visant à prolonger le pouvoir en place. Un autre appel est lancé sur le plan sécuritaire cette fois. Il s'agit de celui de l'autorité provinciale du Nord Kivu au lendemain de deux journées de tensions observées dans la ville de Beni. La rue n'accouche pas de solutions durables. Seuls le dialogue, la cohésion sociale et la paix peuvent nous permettre de surmonter nos défis, a-t-elle déclaré. À l'origine de cette situation, un appel à deux journées de ville morte lancé par deux mouvements citoyens et groupes de pression pour réclamer le retour de la paix dans la région ainsi que la libération de l'un de leurs détenus à l'auditorat militaire. Suivez la directrice de communication du gouverneur du Nord Kivu. Les propos de Marie-Noël Kabuya sont recueillis par Marc Marofimbo.
Vous savez que la rue n'accouche pas de solutions durables. La rue peut vous amener à enflammer tout un pays. Vous savez, nous sommes pendant la guerre. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait aussi les déplacements des endroits les moins sécurisés possibles, qui essayent de chercher leur pain quotidien journalièrement. Et le fait de paralyser les activités, c'est vraiment très grave. L'appel qu'on peut lancer aujourd'hui à la jeunesse, c'est de s'affilier à des structures des jeunes qui sont bien structurés, de bien œuvrer dans les associations de jeunes qui sont bien connus, bien répertoriés et qui ont des canaux légaux pour faire parvenir leur plaidoyer auprès de la hiérarchie ou auprès des décideurs afin d'avoir des décisions et des résultats aux problèmes qui sont bien concertés et qui sont très durables. Donc il faut avoir un œil très regardant mais aussi beaucoup de patriotisme pour prendre des décisions qui sont importantes et utiles pour toute la communauté.
Activité socio-économique fortement perturbée hier mercredi à Mambasa, en Ituri. À la base, une journée de deuil décrétée par les structures de la société civile pour dire non à la persistance des attaques attribuées aux ADF et les pertes en vies humaines enregistrées dans plusieurs zones du territoire. Entre-temps, boutiques, parkings et stations-service ont fonctionné au ralenti. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Ces familles ont abandonné tous leurs biens et leurs moyens de subsistance dans la précipitation. Elles vivent aujourd'hui dans des conditions humanitaires difficiles. Certaines passent nuit à la belle étoile, d'autres dans des salles de classe ou encore sur les balcons de maisons de particuliers. Parmi ces déplacés figurent des enfants, des femmes enceintes et des personnes du troisième âge, désormais exposées aux intempéries et au manque de moyens. Rams Malikidoko est responsable de l'ONG Association pour la protection et la défense des enfants et femmes vulnérables, alerte également sur les difficultés rencontrées par l'équipe de riposte sanitaire. Selon lui, l'afflux de ces personnes complique le suivi sanitaire. Certaines personnes venant des zones touchées par l'épidémie d'Ebola, notamment Niania, PK51, Badengaïdo. Cet afflux entraîne également un regain de l'insécurité à Mambasa Centre, avec surtout une hausse du banditisme urbain, ajoute Marie-Noël Anotane, autre actrice de la société civile. Des sources locales estiment par ailleurs que les opérations menées par les FARDC contre ces rebelles des ADF avec leurs partenaires l'armée ougandaise et la MONUSCO n'ont pas encore produit les résultats escomptés. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
L'actualité, c'est aussi cette bonne nouvelle concernant les enseignants congolais. Au moins 24 000 d'entre eux reçoivent déjà leur prime de gratuité. Des chiffres livrés d'ailleurs par les directeurs nationaux de la Direction nationale des contrôles, de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires d'Inacopé en sigle. Vital Lumbala a donné ces informations lors d'un point de presse tenu hier mercredi à Kinshasa. Il explique que cette action est le résultat d'un profond travail d'assainissement ayant permis de dégager plus de 471 millions de francs congolais dans les circuits de paie. Les propos de Vital Lumbala recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
24 296 enseignants qui ont aussi vu leur situation régularisée au titre de la prime de gratuité. Nous n'avons pas demandé une enveloppe supplémentaire au trésor public pour réaliser ces corrections. Nous avons travaillé sur ce qui existait déjà. Nous avons renforcé les contrôles du fichier de paie. Nous avons recherché les doublons et nous avons réorienté ces ressources vers les bénéficiaires directs du système, qui sont les enseignants. Un premier travail d'assainissement a ainsi permis de dégager plus de 471 millions de francs congolais d'économie. Le gouvernement est conscient du rôle essentiel de l'enseignant dans notre système éducatif et poursuit ainsi les efforts pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles, l'harmonisation des bases de données entre la DINACOPE et la direction des paies a notamment permis d'améliorer la fiabilité des informations et de réduire le temps d'intégration des données dans la paie.
Qui dit rentrée scolaire dit aussi préparatif pour les élèves. À Kananga, les commerçants ont déjà pris les devants en renforçant leur stock de fournitures scolaires. Sacs, cahiers, stylos, chaussures et autres articles indispensables garnissent désormais les étals des marchés de la ville. Objectif, répondre à la demande croissante des parents à l'approche de la reprise des cours. Face aux contraintes du pouvoir d'achat, les vendeurs disent également adapter leurs offres pour attirer la clientèle. Le point avec André Katindenga Lamouroumé.
À l'espace Batetela, la rentrée scolaire se prépare déjà. Sur les étals, les fournitures scolaires, notamment des sacs à dos, cahiers, stylos, chaussures et autres objets classiques, occupent de plus en plus de place. Plusieurs vendeurs disent avoir investi davantage dans les fournitures scolaires pendant cette période. C'est le cas de Aaron Beyard, responsable de l'établissement La Verge d'Aaron, en face du lycée Kélékélé.
À chaque période, il y a toujours eu une réalité. Dans cette période, étant donné que bientôt c'est la rentrée scolaire, nous étant des opérateurs économiques, nous intéressons beaucoup plus à des fournitures scolaires.
Pour de nombreux commerçants, cette période est bénéfique pour ceux qui investissent dans les fournitures scolaires. Alain Kabeya indique que la demande augmente à mesure que la rentrée approche. Il s'adapte au prix d'achat des familles.
Nous essayons de proposer des articles à différents prix. Certains parents cherchent des fournitures moins chères. Nous devons donc avoir plusieurs qualités et plusieurs modèles.
Du côté des parents, les achats commencent également. Certains viennent comparer les prix avant de se décider. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Kapi.
Revenons à Kinshasa avant d'aller plus loin. Hommage aux sages femmes autochtones, protéger la vie et le bien-être. Tel est le thème international retenu pour la Journée internationale des peuples autochtones, célébrée le 9 août de chaque année. Mieux vaut tard que jamais. Pour cette année, cette édition 2026, La cérémonie de lancement officiel s'est tenue hier mercredi à Kinshasa. Elle a été placée sous la houlette du vice-ministre des Affaires coutumières de la République démocratique du Congo, le Mwami Jean-Baptiste Ndeze Katourebe, en présence de plusieurs leaders pygmées venus des quatre coins du pays. Benjamin Moudoumbi était sur place. Voici son reportage.
Prenant la parole, le ministre en charge des affaires coutumières, le Mwami Jean-Baptiste Ndeze Katourebe, a expliqué le choix du thème national en ces termes.
Nous avons retenu le thème national, hommage à la sage-femme, au docteur Pygmé, héroïne et gardienne des savoirs ancestraux, les mains qui donnent la vie et le bien-être. Ce thème traduit notre volonté de mettre en lumière le rôle essentiel joué par les femmes autochtones Pygmé dans la transmission des savoirs traditionnels, l'accompagnement des naissances, la protection de la vie et la préservation des pratiques culturelles.
Et contrairement aux pratiques modernes, les sages-femmes autochtones pygmées aident à accoucher en utilisant notamment des plantes. Ici, les témoignages de Madame Priscilla Mounieri.
Ces femmes ne sont pas des simples exécutantes. Elles sont les gardiennes d'une obstétrique forestière d'une précision chirurgicale. Pour couper les cordons ombilicaux, là où la médecine moderne exige pince et bistouri, elles utilisent les morceaux des tiges de bambou.
Les peuples autochtones pygmées Mbuti vivent traditionnellement dans les forêts du bassin du Congo. Ils luttent pour leurs droits et la protection de leurs terres ancestrales.
Actualité internationale.
Les Zambiens votent ce jeudi 13 août pour élire leur président et leurs députés. Près de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. 5 ans après l'alternance historique de 2021, Akainde Ichilema part favori face à 13 autres candidats. Mais coûte de la vie, mobilisation des jeunes, recomposition de l'opposition et controverses sur les règles du jeu rendent le scrutin plus incertain qu'il n'y paraît.
L'invité.
La RDC veut tourner la page de la politisation de ses entreprises publiques. Le gouvernement souminois a lancé, à travers le ministère du portefeuille, un processus compétitif de recrutement des mandataires publics. Objectif, privilégier désormais le mérite, la compétence et la transparence dans la gestion des entreprises de l'État. 15 sociétés sont concernées par cette réforme, parmi lesquelles la SNEL, la Régie des eaux, la RVA, l'ONATRA et la SNCC. Cette question était au cœur de l'émission Dialogue entre Congolais, diffusée ce mercredi. Réaction de Lems Kamwanya, économiste et ancien mandataire public. Il est au micro de Dona Madimba Mbaya.
Lems Kamwanya, économiste et ancien mandataire public en République démocratique du Congo, que soulève en vous cette nouvelle initiative de sélection des mandataires pour diriger les entreprises publiques de la RDC?
Oui, merci pour la question. En fait, c'est une initiative qu'il faudra saluer. Je crois que, si ma mémoire est bonne, ça devra être la deuxième fois que le gouvernement procède à une telle expérience. Moi-même, je me rappelle quand je n'étais pas encore mandataire, j'étais au comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques. En 2006-2007, on avait mis en place un tel processus. L'objectif qui est mis, c'est comme c'est motivé par la ministre du portefeuille, c'est arriver à sélectionner les candidats sans pour autant que cela ne vienne d'une influence politique ou l'appartenance politique. Pourquoi cet objectif? Parce qu'on pense que lorsque un candidat qui devient mandataire public passe par un processus compétitif de sélection, à ce moment-là, il sait que il est à la tête de l'entreprise, non pas parce qu'il a été recommandé ou il représente son parti, il est là pour montrer de quoi il est capable. Il jouit d'une certaine autonomie et d'une certaine indépendance et il a tout le temps de montrer ses capacités dans la gestion de l'entreprise et faire voir ce qu'il a comme compétence afin de faire avancer l'entreprise et il est totalement départi de ces emprises qui sont là au niveau politique. Parce que lorsqu'elles sont politisées, on se rend compte que les gestionnaires, tout ce qui l'intéresse, c'est chercher des parapluies, c'est chercher à nourrir les personnes qui l'ont amené là-bas ou son parti politique, l'autorité morale ou le président de son parti ou de son groupement politique. Il est plus redevable à eux que avoir des performances. Il peut ne pas y avoir des performances au sein de l'entreprise, mais le plus important, qu'il protège son fauteuil en récompensant ceux qui l'ont mis là-bas. Mais lorsqu'il est sélectionné suite à un processus qui est clair, il sait que c'est son savoir-faire, c'est sa compétence qui sont mises en avant. Il est en train de jouer sa crédibilité pour montrer qu'il mérite réellement ses postes et il peut œuvrer en toute indépendance et montrer de quoi il est capable. C'est pourquoi j'ai apprécié le thème de votre émission. On ne voit pas seulement les profils, on regarde aussi l'environnement. Donc, dans les faits, c'est une mesure à saluer, mais faudra-t-il qu'on aille jusqu'au bout et même les candidats qui vont compétir ou qui seront par la suite sélectionnés, ils doivent savoir qu'ils doivent ces postes par leur compétence, par leur mérite, par leur expérience. Ils n'ont pas besoin pour cela d'aller encore chercher à avoir ces parapluies ou cette protection politique qui va encore nous repousser et nous ramener à faire en sorte que ces postes-là ou la justice d'entreprise soient politisés. D'abord, en ce qui concerne la soumission des dossiers, d'abord le processus lui-même, il concerne tous les Congolais. Je pense pas seulement ceux qui sont au pays, même ceux qui sont à l'étranger. Tout celui qui est Congolais peut postuler. Et à ce que je sache, l'Internet, c'est un boulevard qui est mondial. Tout le monde, quel que soit l'endroit où il est, il a la possibilité de pouvoir postuler son dossier. Et je ne pense pas qu'il y ait une certaine exclusion. Peut-être la préoccupation, elle est fondée. Si parmi ceux-là qui aujourd'hui se retrouvent dans les territoires qui sont confrontés par la crise sécuritaire actuelle, sont présélectionnés et qui doivent maintenant venir participer aux tests écrits et même à l'interview, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait des facilités, peut-être un certain nombre de dispositions qui sont mises à leur niveau pour permettre leur participation. Mais en ce qui concerne la soumission, je pense que les 2 semaines qui ont été accordées sont amplement suffisantes pour que tout le monde en ligne puisse arriver à déposer son dossier, mais les mesures de faveur qu'il évoque, peut-être il faut les considérer au moment de passer à des tests écrits ou à des interviews qui vont nécessiter quand même que les déplacements et un certain nombre de précautions d'autorisation soient données pour que tout le monde puisse avoir accès.
Vous pouvez encore suivre l'émission Dialogue entre Congolais sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net. Voilà ce qui met fin à ce journal parlé du matin, coordonné et supervisé par Lévin Mbouinga Vubu et mis en onde par Pierre Diassinois.